Donc, au niveau des avancées de notre projet, on avait identifié trois parties prenantes en fait à ces Cannabis Social Coop. Donc, les usagers, les producteurs et puis les centres de soins. On a également pensé pour certains projets en fait d'intégrer des acteurs de l'insertion en envisageant en fait de proposer à des usagers de centres de soins de pouvoir travailler en fait avec sur les lieux de production de CBD sous la forme du travail tapage, donc les travails d'insertion payés à la journée. Voilà. J'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer la synthèse et je vois que Cyril en profite, que ce soit moi qui me crame pour préparer la sienne.
Non, je suis en train de noter ce que tu dis.
Oui. Donc du coup, au niveau des Cannabis Social Coop, on est vraiment sur l'idée en fait de créer un lieu d'accompagnement de réduction des risques où il y aurait du CBD de proposer, mais on ne limite pas en fait ces lieux-là au CBD. On est vraiment sur l'accompagnement à la réduction des risques. Alors du coup, au niveau de nos échanges, on est allé en fait sur l'idée au niveau des Cannabis Social Coop de pouvoir aller plus sur l'accompagnement en fait des consommateurs et de créer un lieu où on proposerait l'accompagnement des consommations, de pouvoir créer un collectif en fait d'usagers qui pourraient se réunir en fait au sein de cette Cannabis Social Coop avec l'appui en fait d'un centre de soins. Et aussi, ce que l'on s'est dit, c'est qu'il ne fallait pas forcément conditionner le projet, la création en fait d'un projet à la participation du producteur. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des producteurs dans la boucle, mais qu'on pouvait aussi partir sur des territoires avec une Cannabis Social Coop, avec du coup des usagers, des centres de soins et de proposer en fait un espace de consommation. Donc avec l'accompagnement des consommations et puis on a aussi parlé de l'analyse des produits, de pouvoir proposer en fait de l'analyse de produits. Parce que la question qu'on s'est posée, c'est du coup comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les usagers de cannabis aient envie d'aller dans la COP, quels seraient leurs intérêts. Et du coup, au niveau des intérêts qu'on a identifiés, alors tout ça, bien sûr, c'est à creuser, hein, c'est une étape dans le projet et c'est des éléments à creuser. Mais du coup, ce serait qu'au niveau de la COP, on pourrait proposer du matériel avec des vaporisateurs, du matériel, donc du matériel à tester. Pourquoi pas aussi, quelqu'un se disait, inclure dans la boucle en fait des fabricants de vaporisateurs. Et quelqu'un citait l'exemple en fait dans son centre de soins, qu'en se mettant en lien avec un fabricant, ils avaient eu la possibilité d'avoir des prix et du matériel en fait moins cher que ce que l'on peut trouver si on l'achète individuellement. Donc on a identifié ce premier intérêt. Le second intérêt, c'est la question de l'analyse de produits, de pouvoir proposer en fait de l'analyse de produits sur ce lieu-là. Et le troisième intérêt, c'est la question du lien social, c'est de pouvoir proposer un espace où les gens vont pouvoir consommer, être avec du monde, discuter, enfin voilà, avoir ces différents éléments-là. On a parlé aussi de salles de consommation à moindre risque, parce que du coup, on a identifié ce qui pouvait être fait. Ah, je vais vous demander de couper vos micros. Et puis, je vais entendre les trous en plus.
Merci.
Merci. On est allé sur l'idée aussi de salles de consommation à moindre risque, alors qui est aujourd'hui plus compliqué à monter, mais qui pouvait s'envisager aussi sur le cannabis, avec comment dire les volets. Donc on est allé sur la question de quel lien avec le voisinage, est-ce qu'il y aurait un intérêt, et en indiquant que ça pouvait être en s'appuyant sur les expérimentations de pays voisins, il pouvait y avoir un intérêt pour les voisins. D'avoir une salle de consommation à moindre risque, ce que ça pouvait du coup, comment dire, je dirais avoir des intérêts, mais je crois que j'ai déjà dit trois fois. C'est ça de. Voilà, mais c'est déjà bien en 2 heures d'être allé sur tout ça. Et vraiment, en fait, pendant l'atelier, on a vraiment fait le distinguo, en fait, au niveau des cannabis social coop, le distinguo avec la question de la production et de fournir du CBD et toutes les autres actions que l'on pouvait en mettre en place. Et c'est vrai que moi, si j'en retire vraiment une grande orientation par rapport au travail qu'on a fait ensemble cet après-midi, c'est de se dire qu'il ne faut pas qu'on limite en fait le cannabis social coop en fait à la production de CBD et à fournir du CBD avec des producteurs, que ça peut être un des aspects, mais ce n'est pas le seul et l'unique aspect. Et la réflexion qu'on se faisait, c'est que finalement, l'accompagnement aux consommations, l'accompagnement des usagers, c'est quelque chose que l'on sait faire, qui se fait déjà, et que ça pourrait être un bon point de départ pour identifier en fait des expérimentations, s'appuyer sur des collectifs d'usagers, et que ça pouvait être un élément à mettre en place, réalisable en fait, et pas à chaque fois se reprendre les pieds dans le tapis sur la question de la production de CBD, qu'est-ce qu'il est possible, pas possible, la sécurité, les graines, les machins, les différents éléments. Voilà.
Merci.
Rapidement.
Ok, on ne prendra pas le temps de demander s'il y a des compléments, donc, parce qu'on ne veut pas être trop long non plus dans cette dernière séquence. Donc, l'atelier numéro 2, donc, s'est construit autour de la réduction des risques cannabis, sur l'expérience de Sandra Pinel et les réactions de Pierre Chappard qui était déjà intervenu ce matin. Donc nous étions 18 en ligne, c'était un beau groupe. Et donc Sandra a donc fort finement donc et humblement et présenté son expérience à donc la Rose des Vents donc à Saint-Nazaire à Nantes. Donc elle-même usagère, ex-usagère donc infirmière a développé donc suite à un travail qui a été fait par un médiateur santé pair qui était Serge donc un travail sur l'accompagnement à la réduction des risques cannabis. Donc, et sur la réduction d'autres risques également, donc, puisqu'elle elle anime 6 ateliers différents donc, sur Saint-Nazaire et sur Nantes, à travers une pratique d'entretien individuel par des personnes qui lui sont référées par ses collègues, notamment donc, issues de Caroline et de Xapa, et par des ateliers collectifs, donc, avec un travail de pédagogie de la consommation et d'accompagnement de la consommation très fin. Qui est particulièrement co-construit. Donc, c'est une co-animation avec les usagers eux-mêmes, donc qu'elle met en place progressivement, en s'appuyant notamment sur les outils pédagogiques mis en place par Normal sur donc, la réduction des risques, donc les échelles de dangerosité de l'utilisation des produits, le type d'usage notamment du cannabis en shit, donc en chewing-gum, en inhalation, donc en ingestion, donc ou en vapotage, et tout ce travail donc est en place depuis 1 an maintenant, c'est assez récent, mais ça apporte des fruits tout à fait intéressants autour de comportements donc et d'impact sur la santé donc et le psychique des personnes qui peut être très différent d'un individu à un autre. Sandra a fait écho à ce qui a été dit ce matin par Nina sur le fait que les impacts du cannabis sont très très différents d'une personne à une autre, avec donc des comportements et des effets donc qui peuvent être à la fois des causes et des besoins donc et des effets qui peuvent être très très différents. Donc ça suppose vraiment un accompagnement à la fois collectif pour une dynamique donc de groupe et individuel au regard des situations de chacun. Donc elle a insisté sur le fait que cette démarche avait été très bien accueillie par ses collègues de Saint-Nazaire. Plus difficilement au départ à Nantes, dans la mesure où Saint-Nazaire avait beaucoup bénéficié du travail justement de Serge, médiateur santé pair, qui avait bien conscientisé ses collègues sur l'importance du travail de coproduction en s'appuyant sur l'expérience des usagers eux-mêmes. Sur cette base-là, donc Pierre nous a rappelé donc les 4 questions qui se posaient de manière un peu systématique autour de la RDR cannabis. La première question, c'est quels sont les moyens qu'on peut mobiliser pour faire un travail sérieux sur ce sujet. On le verra tout à l'heure, donc, et Aurélie l'a évoqué, donc, créer des lieux donc, qui permettent d'accompagner la consommation, ça coûte des moyens financiers. Donc ça suppose d'avoir des établissements et des partenaires qui sont prêts à cofinancer ces démarches. Utiliser des vapoteuses donc, spécifiques, ce sont des équipements relativement coûteux. ainsi que pouvoir donc parfois même fournir le produit, donc le CBD ou d'autres produits donc licites, ça coûte relativement cher. Donc ça suppose donc d'avoir une capacité d'intervention qui est validée par les instances de l'établissement, donc et financée par la direction. Donc c'est le cas pendant un certain nombre d'équipes d'Opelia. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres équipes, donc qu'on ne citera pas. Donc il y a aussi un problème de choix politique en tant que tel qui fait que la réduction des risques donc, n'est pas forcément portée par tous les acteurs de la addictologie aujourd'hui, on s'en fout. Donc le deuxième point, c'est le ciblage du public et des impacts donc, sur ces publics. Je le disais tout à l'heure, donc selon qu'il s'agit de problèmes de sommeil, donc de stress ou d'addiction forte, donc selon qu'il s'agit donc d'addiction à l'alcool, aux drogues, donc cannabis ou autre, donc ou qu'il s'agisse d'atténuer des douleurs, donc des pénibilités, donc les accompagnements donc à la consommation ne seront pas, certainement pas les mêmes. Troisième question, c'est mettre en place des protocoles les plus scientifiques possibles sur la mesure des impacts donc bénéfiques pour les personnes. Donc c'est vrai sur des mesures tout à fait donc scientifiques et exactes, d'autres qui sont beaucoup plus des échelles de mesures sur la question de la douleur par exemple ou de la pénibilité pour les personnes. Pierre insistait sur le fait que accompagner donc à la consommation, c'est aussi accompagner à la mesure des effets de cette consommation et donc l'évolution de cette consommation. Et puis c'est bien sûr s'intéresser à différentes formes donc de consommation, donc non seulement donc le CBD, comme le disait donc Aurélie tout à l'heure, mais aussi d'autres supports toxicologiques de cannabis, et bien sûr d'autres substances addictives. Donc la réduction des risques, c'est une logique d'ensemble qui a globalement les mêmes principes qu'il s'agisse de cannabis, d'alcool ou d'autres drogues, même si les formes de mobilisation peuvent être différentes en fonction de ces produits. Il y a eu un certain nombre de considérations techniques qui ont intéressé beaucoup donc les participants qui avaient beaucoup moins d'expérience donc dans ce domaine, autour de l'utilisation des fleurs, de l'huile, donc la mesure du taux de THC, donc les risques de dégradation naturelle du THC lorsqu'il est amené à une forte température de combustion. Donc le camarade de Normel, donc Jean-Charles, Jean-Claude, je ne sais plus son prénom, pardon.
Jean-Charles.
Donc exprimait le risque donc dans ce domaine lorsque donc le THC est porté à trop haute température de se dégrader le CBD lorsqu'il est porté à trop haute température de se dégrader en THC. On a évoqué aussi donc la grand intérêt mais les risques aussi donc du travail donc d'experts donc usagers. Donc Sandra a parlé de sa propre expérience donc en tant qu'usagère qui a été acceptée et validée donc par ses collègues. Pierre disait que donc cette pratique notamment portée aussi par les médiateurs santé pair n'est pas toujours évidente et donc ça suppose une maturité d'équipe assez forte pour que ce ne soit pas de la stigmatisation, donc, puisque les professionnels qui donc, mobilisent leur expérience personnelle en tant qu'usager peuvent être assez rapidement taxés donc, de comportements addictifs eux-mêmes, donc, ou en tout cas de rationalité moins forte que des professionnels qui en auraient plus. Enfin, vous voyez un peu donc, dans quel paradoxe on peut être au regard donc de la mobilisation de l'expérience elle-même par les professionnels. Je ne suis pas sûr d'être très clair dans ce que je raconte, mais vous trierez, puis on vous racontera par l'écrit. En termes de pistes possibles, j'essaie de ne pas être trop long, donc je regarde l'heure. On a évoqué là aussi nous-mêmes les salles, les espaces d'accompagnement à l'usage. Il n'y a pas de salle de vape, entre guillemets, aujourd'hui, dans l'expérience française en tout cas. Mais pourquoi pas l'imaginer. Donc, est-ce que ça doit être donc l'ouverture de l'usage du cannabis aux espaces d'accompagnement, donc à la consommation à moindre risque actuelle, donc entre guillemets salle de shoot dans le vocabulaire courant. Est-ce que ça doit être des espaces spécifiques sur le cannabis? Est-ce que les CSC, donc les Cannabis Social Club ou Cannabis Social Coop, peuvent être des espaces qui peuvent être favorables à ce type d'expérience? En tout cas, c'est quelque chose qui a aussi intéressé beaucoup les participants, d'imaginer que dans plusieurs endroits en France, il y ait donc de plus en plus d'espaces comme cela. À deux derniers points, donc c'est l'importance de la mobilisation des partenaires également. On est bien conscient qu'aujourd'hui, il y a quelques pionniers qui travaillent sur la RDR cannabis. Sandra en est une pionnière, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, du côté d'Opédia, on en trouve. Du côté d'autres associations, on en trouve également. Mais un certain nombre d'acteurs sont encore très loin de ces pratiques. Et ça suppose, lorsque le travail se fait autour de ce collectif, d'associer les partenaires locaux eux-mêmes pour qu'ils puissent être en contact directement avec des expériences concrètes et positives de RDR cannabis, et que ça puisse diffuser petit à petit d'autres expériences et que d'autres acteurs puissent s'y intéresser également. Donc il y a une espèce de contamination progressive qui est proposée par l'expérience elle-même et par la mise en place de collectifs d'usagers et de professionnels associant les partenaires. Et puis c'était Pierre qui insistait pour finir, donc le rôle des directions des équipes et des conseils d'administration, donc là j'ai une perche tendue à Françoise, administratrice, avec ses collègues administrateurs et les autres administrateurs des autres structures, travailler sur une stratégie de réduction des risques, ça suppose un vrai travail de prise de risque politique, faire en sorte qu'on puisse considérer que c'est un enjeu en tant que tel pour les acteurs de l'addictologie en France et que ça suppose de mettre des moyens et de développer des pratiques avec des outils pertinents pour le faire. On remercie particulièrement Sandra pour son témoignage très riche, Pierre pour ses aiguillons méthodologiques et l'ensemble des participants de l'atelier numéro 2 qui était très riche. Merci.
Il y a beaucoup de sujets communs qui ont été abordés.
Oui, c'est bien parce que du coup, pendant l'atelier 1, je disais, ah, je pense que l'atelier 2, ce serait bien qu'il travaille sur tel sujet. Donc, c'est bien, ça a été fait. C'était très complémentaire. Et on est plutôt allé dans le même sens. Donc, oui, du coup, merci à tous les participants et les intervenants. Après, je l'ai déjà dit pour l'atelier 1, mais du coup, ce serait une redite pour l'atelier 1, mais peut-être un nouveau pour l'atelier 2. Au niveau du travail qu'on a fait cet après-midi, c'est vraiment dans la continuité et un exemple en fait, du travail qu'on réalise au sein de Coopélia. Donc du coup, si ça vous intéresse en fait, de participer à la dynamique, vous pouvez me contacter et participer en fait, à ce projet-là. On est vraiment dans cette idée-là, en fait, de partir de la contribution de chacun et de pouvoir imaginer, en fait, les expérimentations possibles et mettre des choses en place ensemble par la suite. Donc, encore une fois, merci pour vos contributions. Ça va venir nourrir le projet. Et puis, vous allez avoir, du coup, il y a l'enregistrement du webinaire de ce matin. Je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion d'y participer, qui était assez intéressant. Et je pense aussi, si vous travaillez dans des structures, ça peut éventuellement être intéressant de le proposer à des collègues de le regarder, parce que c'est une très très bonne approche pour démarrer la RDR cannabis et avoir des éléments. Donc je pense que ça peut servir de support. Donc voilà, et puis du coup
une prochaine journée de travail
donc du coup dans le cadre de Coopélia on propose en fait une journée plusieurs fois par an on propose des journées que l'on appelle les journées de co-développement. Donc ce sont des journées que l'on propose en fait aux porteurs de projets de pouvoir venir sur une journée et bien bénéficier de temps où on met en place en fait sur une méthodologie d'accompagnement, de co-développement. On accompagne chacun en fait dans son projet, on est tous tour à tour, parce que je me mets dans l'eau, parce que je porte le projet de Coopélia, on est tous tour à tour porteurs de projet et consultants où on vient aider un autre porteur de projet. Donc la journée aura lieu le 24 juin. Donc voilà, et puis de toute façon, comme vous êtes inscrit en fait à la journée, j'aurai vos coordonnées et au niveau de Coopélia, on va bientôt faire une newsletter pour vous informer en fait des dates à venir, des différents éléments et vous serez destinataire en fait de cette newsletter-là. Voilà. Eh ben, merci pour votre participation. J'espère que vous y avez trouvé de l'intérêt. Et puis, je vous dis à bientôt.
Ciao. Merci encore à Nina, à Pierre, Sandra.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Au revoir.